Il est 8h.
Nous souhaitons absolument que l'individu soit interpellé, sain et sauf. Donc c'est quelque chose qui peut durer encore de nombreuses heures.
Patience et prudence pour mettre la main sur l'homme armé retranché depuis dimanche matin dans une forêt de Dordogne. La stratégie des 300 gendarmes et les dernières informations du service police-justice d'Europe 1, c'est en direct dans un instant. 5 mois après Morissette, 25 millions de premières doses de vaccins ont été administrées. La France a rattrapé son retard et la vaccination s'ouvre aujourd'hui à tous les plus de 18 ans. Et puis, un boycott qui lui coûte déjà cher, 15 000 $ d'amende pour Naomi Osaka. La joueuse refuse les conférences de presse ici à Roland-Garros. Je demanderai à Cédric Pioline dans quelques minutes si c'est un caprice de star ou une évolution à venir de la communication des sportifs de haut niveau. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Changement de nom et changement de cap pour la compagnie pétrolière Total, désormais appelée Total Énergie. Son PDG Patrick Pouyanné veut en faire une entreprise multi-énergie. Des ONG crient à l'hypocrisie, très rare dans les médias. Le patron Patrick Pouyanné est mon invité, 8h15.
On vous retrouve juste après ce journal et puis 8h30, 8h45, une spéciale tennis avec Amélie Oudéa-Castéra, directrice générale de la Fédération Française de Tennis, avec Corinne Boulou, le journal de Roland-Garros bien sûr, et avec Jimmy Mohamed, notre santé, les bienfaits du sport. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, il est 8h02.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Les meilleurs alliés des gendarmes dans cette traque depuis hier matin en Dordogne sont leur nombre et le temps. Face à la menace bien réelle d'un ex-militaire qui n'a pas hésité à tirer plusieurs fois, ils sont 300 avec des moyens matériels exceptionnels, blindés et hélicoptères. Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour François.
Du service police-justice d'Europe 1, cela fait 24 heures qu'un périmètre est enserré par les gendarmes. Quelle est leur stratégie ce matin et pour les heures qui viennent?
Eh bien, on peut clairement parler de stratégie du Le temps joue contre le suspect qui va s'épuiser, qui va manquer de ressources et peut-être aussi de cartouches, car les négociations ont échoué jusque-là. Le dernier contact remonte à hier matin et le suspect, armé de 2 carabines, avait répondu par quelques tirs. L'enjeu pour les gendarmes, c'est de localiser avec certitude le suspect pour maîtriser l'intervention sans effusion de sang. Les gendarmes ont procédé à la vérification de différents points cette nuit. En vain, cet ex-militaire habitué des opérations extérieures, Mali, Djibouti, le Tchad, reste introuvable. Très mobile, le jeune homme de 29 ans tire profit de ce terrain boisé, accidenté, difficile d'accès qu'il connaît bien. Déjà condamné à 4 reprises pour violence conjugale, le suspect a bravé l'interdiction d'entrer en contact avec son ex-conjointe samedi soir pour s'en prendre à son nouveau petit ami, alors même qu'il porte un bracelet électronique. Il a déclaré aux gendarmes qu'il mourrait les armes à la main.
Les toutes dernières informations signées Marion Dubreuil. Merci Marion. On reparle de Rémi Daillet, cet ancien cadre départemental du Modem, vivant en Malaisie, a été arrêté sur place pour séjour irrégulier. Il est soupçonné d'avoir participé à l'organisation de l'enlèvement de Mia, une petite fille de 8 ans enlevée mi-avril que l'on avait retrouvée avec sa mère en Suisse.
8h04 sur Europe 1. C'est une étape majeure de la lutte contre la pandémie. À partir d'aujourd'hui, tous les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner.
Et il n'y a plus de critères de sélection, plus besoin de justifier non plus une quelconque comorbidité pour prendre un rendez-vous. Alors Victor Delande, on en est à 48% de la population totale qui a reçu au moins une dose, ce qui signifie en fait que la France a rattrapé son retard.
Oui, rappelez-vous les premiers jours du mois de janvier, les résidents d'EHPAD vaccinés au compte-gouttes, Morissette, la première, et quelques dizaines d'injections quotidiennes, une pluie de critiques, et puis au fil des mois, avec des réceptions de plus en plus importantes de vaccins, la France a progressivement rattrapé son retard sur les pays de tête. Avec 63% de sa population qui a reçu au moins une dose, Israël domine toujours ce classement devant le Royaume-Uni, le Canada, le Chili et les États-Unis. La France arrive en fait dans un second wagon emmené par l'Allemagne qui compte 43% de sa population avec au moins une injection. Au coude à coude avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou encore la Suède, la France tourne actuellement à 500 000 injections par jour en moyenne. Avec l'ouverture de la vaccination à tous les adultes depuis ce matin et l'arrivée des vaccins Moderna en pharmacie, le gouvernement compte bien tenir son objectif des 30 millions de primo-vaccinés au 15 juin.
Merci Victor Delande, spécialiste santé d'Europe.
La politique à présent. Et d'abord, c'est aujourd'hui le lancement de la campagne officielle pour les élections régionales. Mais d'abord, 4 élections législatives partielles avaient lieu hier sur fond de forte abstention.
Oui, 26% seulement de participation dans l'Oise, par exemple. 3 mois après la mort d'Olivier Dassault dans un crash d'hélicoptère, son neveu Victor Habert Dassault obtient 58% des voix, mais n'est pas élu dès le premier tour du fait de cette faible mobilisation. L'élection la plus observée, c'est dans le Pas-de-Calais, où une ministre est en lice, Brigitte Bourguignon, en tête avec avec 35%. Elle sera face à Marie-Christine Bourgeois du Rassemblement National au second tour. Et on note que la ministre a reçu un soutien indirect de Xavier Bertrand, Aurélie Herbement.
Entre la Macronie et le Rassemblement National, pas d'hésitation pour Xavier Bertrand. La candidate LR ayant échoué à se qualifier, le président des Hauts-de-France appelle à faire barrage à l'extrême droite. S'il n'a pas écrit « Votez Brigitte Bourguignon » sur Twitter, c'est bien le sens de son message. Pas anodin alors qu'il affronte une liste avec pas moins de 5 ministres dans 3 semaines au régional et que son principal adversaire est Sébastien Chenu pour le RN. Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle, avait pourtant tenté de prendre la tête des partisans du ni Macron ni Le Pen à droite après l'accord de premier tour entre Renaud Muselier et les marcheurs en PACA. Mais en cas de duel entre ces deux camps au second tour, il assume de préférer la majorité présidentielle, quitte à donner des arguments au RN qui fait déjà campagne contre les Républicains en marche et à décevoir ses électeurs anti-Macron.
Aurélie Herbement du service politique d'Europe 1. Et puis on savait que les dirigeants européens, certains avaient été espionnés par la NSA, l'agence de renseignement américaine. On apprend que cela s'est fait via des accords avec le Danemark qui a permis l'accès à ces systèmes d'écoute de câbles sous-marins de télécommunications. Notamment Angela Merkel a été espionnée ainsi.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant sur Europe 1, ce stade, Roland-Garros, où je me trouve, le tournoi, le jeu et la polémique Naomi Osaka. Notre consultant Cédric Pioline en direct avec nous. A tout de suite, il est 8h07.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h08 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
On en a parlé dès vendredi dernier, ici même, avant l'ouverture du tournoi, et ça n'a pas raté. La joueuse de tennis Naomi Osaka, sanctionnée d'une amende de 15 000 $, plus de 12 000 €, car elle refuse les conférences de presse qui mineraient son moral. Elle risque maintenant l'exclusion de Roland-Garros, comme l'a rappelé hier sur Europe 1 le patron de la Fédération française, Gilles Moreton.
C'est un manque de respect pour le tennis. On comprend et on est prêt et on a déjà fait une approche auprès d'elle, auprès de son agent. Je suis moi-même avec Guy Forget, directeur du tournoi, allé la voir sur son cours d'entraînement il y a 2 jours. On était à huis clos. Nous sommes allés la voir. Elle a refusé de nous parler. Elle est partie par une porte dérobée. Donc voilà, je trouve que ce n'est pas une attitude professionnelle.
Gilles Moreton, invité de Wendy Bouchard hier dans Europe Soir Weekend. Je crois que ça va faire réagir Cédric Pioline qui est avec vous sur le central de Roland-Garros, Mathieu.
Oui, François, Cédric Pioline, notre consultant tennis. Alors rebonjour Cédric, vous nous accompagnez depuis tôt ce matin. On entendait Gaël Monfils un peu emprunté sur cette question Naomi Osaka. Il ne voulait pas l'accabler. Et en même temps, lui qui ne va pas bien, il était là, il jouait le jeu des interviews. Elle n'aide pas son sport, Naomi Osaka.
Non, moi je n'approuve pas évidemment cette position, cette décision. Je crois que c'est un petit peu facile maintenant qu'elle est au sommet de la montagne, évidemment sollicitée, beaucoup de contrats publicitaires. Et d'un coup, oui, il y a des contraintes, mais dans tout métier, il y a des contraintes. Et en plus, c'est dans le règlement. Il faut être professionnel, répondre aux médias, faire quelque part aussi la promotion de son sport. Donc je trouve que la position du comité du Grand Chelem est une bonne position que de rappeler les obligations des joueurs et des joueuses. Et puis, comme je l'ai dit hier sur notre antenne, eh bien dans 10-15 ans, quand elle sera au parc en train de promener ses enfants et de promener son chien, elle ne sera plus sur les cours. Par contre, les tournois du Grand Chelem, dont Roland-Garros, seront toujours là et ça sera d'autres joueurs qui animeront la compétition.
Alors, un mot de ce que vous me disiez hors antenne, Cédric Pioline, évidemment. On est ici vraiment à quelques mètres du cours Philippe Chatry. On est dans l'enceinte, évidemment. On voit la terre battue. Et je parle de la terre battue à proprement parler, puisqu'on voyait qu'elle était arrosée un peu plus tôt et qu'il fallait tenir le tuyau pour pas que le tuyau traîne.
Oui,
et comme ça,
oui.
C'est sacré, en fait. Il y a un cérémonial le matin ici.
Oui, c'est sacré. Je crois qu'il faut rappeler une chose qui est importante, c'est que la terre battue est une surface vivante. Donc, il faut la nourrir. On a, depuis ce matin, assisté au cérémonial de préparation qu'ils font tous les jours.
Alors, c'était pas du sel, c'était du calcium.
C'était du calcium, oui. Voilà, qui nourrit le cours. Et donc, voilà, il n'y a rien qui doit traîner, comme vous l'avez souligné. Donc, le tuyau d'arrosage, ils sont 5 ou 6, parce qu'il y en a qui tiennent le tuyau, un autre qui arrose. Vraiment, il y a tout un cérémonial qui est assez impressionnant, je dirais, pour que le cours soit beau et puis surtout prêt pour les joueurs, bien lisse, bien comme il faut, ouais. Pour supporter quand même beaucoup d'heures de jeu tout au long de la journée.
Et on est dans l'ordre du sacré ici, dans ce temple du tennis pour la France.
La tradition.
Évidemment, les entraînements vont commencer dans quelques minutes. J'espère qu'on pourra les entendre. Cédric, forcément,
demi-finale 98, ça rappelle forcément des souvenirs d'être
ouais, à Kyoto. Oui, oui, alors dans un cadre un petit peu différent, puisque le court a été complètement refait. D'ailleurs, il est absolument magnifique, mais moi, chaque fois que je reviens ici, j'ai quand même un petit quelque chose qui se passe dans l'estomac, et c'est un petit peu de frisson, parce que je me rappelle de plein de très bons souvenirs, et effectivement, mon meilleur parcours en 98, lorsque j'avais atteint les demi-finales ici, et je me rappelle encore que d'ailleurs il y avait l'équipe du Brésil qui était venue et que ça avait mis un peu de désordre, on va dire. C'était un bon souvenir aussi.
Évidemment. Alors un autre demi-finaliste français, c'était en 2015, Joe Wilfried Tsonga, qui joue ici aujourd'hui. Merci Cédric, on va vous retrouver tout à l'heure, 8h30, 8h45, une spéciale tennis ce matin. Même Jimmy Mohamed va s'y mettre, vous allez l'entendre, notre santé. Dans un instant, l'interview de la matinale avec Sonia Mabrouk et le PDG de Total, Patrick Pouyanné. À tout de suite sur Europe.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 8h15. Vous l'entendez peut-être derrière moi. Les entraînements commencent ici sur le court Philippe Chatrier, le court central. On revient pour une spéciale tennis de 8h30 à 8h45. Mais pour l'heure, je vous passe la main. Sonia Mabrouk, c'est l'heure de vous retrouver avec votre invité, le PDG de Total, Patrick Pouyanné.
Merci à vous, Mathieu. Effectivement, bienvenue à vous et bonjour, Patrick Pouyanné.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Vous êtes désormais à la tête d'un nouveau Total. La compagnie pétrolière a changé d'identité il y a quelques jours, le 28 mai, lors de son assemblée générale, pour s'appeler Total Énergie. Alors, en quoi, au-delà du nom, bien sûr, est-ce que c'est une rupture avec le long passé de la compagnie pétrolière ?
C'est une rupture, puisque Total Énergie, en un seul mot, il va falloir m'appeler PDG de Total Énergie, dorénavant, comme vous le dites, c'est une nouvelle compagnie qui veut non seulement qui veut produire plusieurs énergies. On est dans une compagnie multi-énergie, c'est-à-dire qu'on va produire l'énergie du présent, c'est du pétrole, c'est du gaz, et surtout l'énergie du futur, qui va être essentiellement à base d'électricité renouvelable, éolien, solaire. Et on veut devenir un géant de ces énergies vertes. C'est une transformation très profonde. Total est égal à pétrole, Total Énergie doit être égal à toutes les énergies.
Quel défi, mais alors quel mix de production cherchez-vous à atteindre d'ici 10 ans ?
Dans 10 ans, le pétrole ne représentera plus qu'un tiers de nos productions innovantes, alors qu'aujourd'hui on est considéré comme le pétrolier. Vous voyez, c'est une transformation très profonde ce qu'on veut faire. Le gaz naturel, les biogaz feront à peu près la moitié, et l'électricité, avec les électricités vertes, renouvelables, fera à peu près 15%. On veut, juste pour vous donner de grandeur quand même, c'est pas une petite ambition, hein. D'ici 2025, 35 gigawatts, 2030, 100 gigawatts, alors ça vous dit rien les gigawatts, ou à vos auditeurs, le parc nucléaire d'EDF, c'est 60 gigawatts. Mm-hmm. Donc on veut construire quasiment deux parcs nucléaires d'énergie renouvelable dans une décennie. Vous voyez un peu la taille, le défi qu'on se lance. Et on veut des clients, bien évidemment, qui vont acheter notre électricité. On a déjà 8 millions de clients en Europe, on en veut 12.
Alors, vous parlez de décennie, et Patrick Pouyanné, sur la décennie qui vient, là, 2020-2030, vous avez déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de croissance de la production pétrolière chez Total. Vous êtes d'ailleurs assez réaliste sur l'état du marché. Mais pourquoi ne pas cesser complètement les investissements dans le pétrole, comme d'ailleurs le réclame l'Agence internationale de l'énergie ?
Je ne sais pas si elle le réclame,
elle
parce qu'il y a 15 jours, elle disait que si on n'investissait pas, les prix allaient monter. D'ailleurs, les prix montent. Je vous rappelle que le pétrole est presque à 70 dollars du baril. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Alors, c'est un peu technique, mais en fait, quand on n'investit pas dans des nouveaux projets, dans le pétrole, les puits, au fur et à mesure qu'ils produisent, on baisse leur pression et il y a moins de production. Donc, tant que la demande ne baisse pas, parce que c'est bien sympa de dire qu'il faut arrêter de produire du pétrole, mais s'il n'y a plus assez de projets, plus assez de production, qu'est-ce qui va se passer ? Le prix va monter.
Le consommateur va être impacté,
Extrêmement impacté. Moi, je veux dire que franchement, le scénario décrit par l'AIE, je vous garantis que si on fait ce qui est demandé, le pétrole sera largement au-dessus de 100 dollars dans les prochaines années.
Mais ça veut dire, Patrick Pouyanné, que vous investissez dans l'énergie de demain sans abandonner l'énergie actuelle qui est l'énergie fossile.
Exactement, mais moi, je suis obligé de. J'ai des clients. Aujourd'hui, l'économie, nous vivons là, toute cette lumière autour de nous, c'est à 80% d'énergie fossile. Et donc, on doit être à la fois produire, et c'est tout le challenge qu'on a, et qui rend l'affaire difficile à comprendre, à accepter, c'est qu'on doit produire cette énergie du présent, mais en même temps, parce que le mot transition énergétique, il y a un mot important, c'est transition. Transition, ça ne veut pas dire radicalement tout arrêter. Ça veut dire qu'on doit faire transiter un système, mais c'est une révolution. Les gens n'imaginent pas changer le système énergétique mondial pour abandonner 80% de la façon dont aujourd'hui on se déplace, on se chauffe, on a de l'électricité. Dans un nouveau système, ça demande des trilliards de dollars, ce que dit aussi le rapport. Et donc, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Autrement, moi, j'abandonne mes clients. Et d'ailleurs, je veux dire, si j'arrête de le faire, il y aura des pays producteurs qui vont le faire à ma
place.
Place.
Et
donc, donc c'est un débat très compliqué et j'admets. Mais nous, on va être une compagnie qui est à la fois l'énergie du présent, mais Je prends en fait ce qu'on va
c'est-à-dire
faire.
Que l'argent du pétrole vous permet d'investir dans les énergies nouvelles. Mais vous défendez, Patrick Pouyanné, on l'entend ce matin, une transition juste, acceptable, au bon rythme. Mais il y a des ONG qui vous reprochent justement un changement de façade, de vous repeindre en géant vert en restant en géant noir. Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que leurs attaques sont récurrentes.
Bah, leurs attaques, malheureusement, ont pris même un ton de radicalité qui est...
Radicalité, dites-vous?
Oui, radicalité, parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, enfin, à la campagne qu'on a eue pendant tout le mois de toutes parts, qu'on a même du mal à répondre et qu'il y a du mal à ce qu'on vouloir même nous écouter dans ce débat qui bouge bien.
Est-ce que ce n'est pas le rôle, ces ONG, un rôle de vigie dans la société civile?
Oui, à condition qu'elles écoutent aussi les autres. Et les autres, c'est notamment le fait que vendredi, lors de l'Assemblée générale des actionnaires, 90% des actionnaires total ont soutenu la proposition de stratégie de transformation qu'on leur proposait, qui effectivement vaut le mot transitoire. Alors en même temps, on les écoute, je les écoute, je ne dis pas, et elles nous aident à progresser. Je suis sûr que sans tout ce qui s'est passé, je ne suis pas certain qu'on serait à ce rythme, même si depuis 2015, on a décidé de s'engager.
Mais alors pourquoi sont-elles si rudes dans leurs attaques? Moi, je prends l'exemple de Greenpeace qui parle de stratégie climaticide de Patrick Pouyanné lui-même. Il vous vise nommément.
Parce qu'en plus, il est bon de dénigrer le PDG. Dans ces cas-là, on attaque personnellement les personnes. Moi, au contraire, j'ai le sentiment de faire extrêmement progresser mon entreprise. Je pense même que c'est la perception de la majorité des gens, que j'aurais pu aussi avoir une attitude beaucoup plus différente. Non, je pense que simplement, aujourd'hui, encore une fois, d'abord, Total est un symbole. Je l'ai appris.
Il faut attaquer les symboles dans notre
société.
On
attaque les symboles. C'est un symbole à la fois du capitalisme, pas seulement du capitalisme, parce qu'on est une des entreprises les plus riches de France. C'est nous qui distribuons le plus montant élevé de dividendes en France, c'est la vérité. Parce qu'on est, plein de succès, parce qu'en fait, on est un leader industriel mondial. Et je suis d'ailleurs, quelque part, j'ai parfois mal à la France quand je vois que c'est en France que nous sommes attaqués comme cela. La vérité, c'est que c'est chez nous que nous subissons le plus forte attaque, alors qu'à l'international, les gens admirent Total.
On est considéré au niveau international. Que ça vous atteint, monsieur le PDG de Total Énergie, vous et vos employés.
Oui, ça m'atteint moi, parce que ça atteint mes employés. Quand vous voyez, il y a des campagnes médiatiques extrêmement fortes comme on l'a vécu, j'ai plutôt mal. Moi, je vais résister. D'ailleurs, moi, ça renforce ma détermination à faire cette transformation en Total Énergie. Et je suis plus combatif que jamais. Mais ça m'atteint parce que je pense que oui, ça pèse sur nos employés. D'ailleurs, cette transformation, ils en sont très fiers, eux. Et la réponse qu'on va apporter, je l'ai pas dit aux écologistes, c'est qu'ils vont voir nos investissements. Ils les voient déjà. Et quelque part, il y a une espèce de frustration de leur part de se rendre compte que parce qu'effectivement, nous avons des moyens financiers importants venant du pétrole. Nous sommes capables aujourd'hui d'être l'acteur français le plus actif dans la transition
énergétique. Certes, mais il y a des arguments légitimes. Parfois, je vous prends un exemple. Total, donc Total Énergie, va miser davantage sur le gaz naturel. Or, M. Pouyanné, c'est un hydrocarbure mis en cause par des ONG, des associations. Le gaz naturel est une énergie fossile, ça vous l'admettez.
Bien sûr que je l'admets, je ne vais pas dire
donc
le contraire.
Donc le débat est plus compliqué et nuancé.
Non, mais le débat est plus... Mais encore une fois, c'est une question de transition. Quelle est l'alternative au gaz naturel pour faire l'électricité? Ce n'est pas un système électrique avec que des énergies renouvelables, et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est intermittent. Il y a de l'électricité, quand il y a du soleil, il y a du vent. Il faut une autre énergie. Aujourd'hui, dans les pays émergents, il ne faut pas regarder que le sujet aux bornes de l'Europe, de nos pays développés. Ce qui compte dans le changement climatique, c'est ce qui se passe en Chine, en Inde, qui font 40% des émissions de carbone. Et là-bas, l'énergie la moins chère qu'ils utilisent, c'est le charbon. Le gaz est le meilleur substitut au charbon. D'accord. Pourquoi? Parce que quand vous faites de l'électricité avec du gaz, vous émettez deux fois moins de CO2
donc
que charbon.
Donc vous vous dites, Patrick Pouyanné, les énergies renouvelables sont nécessaires, mais elles sont intermittentes, donc il nous faut un bon mix.
Il nous faut un bon mix, exactement. Et le mix sur lequel nous parlions, nous pensons que le mix qui va faire cette transition, c'est un mix gaz naturel, énergie renouvelable. Bien sûr qu'il faudra de plus en plus d'électricité renouvelable, il faudra aussi être capable de les stocker, des batteries, de l'hydrogène, etc. Mais cette révolution ne peut pas se faire. Et encore une fois, le vrai combat aujourd'hui qu'on devrait tous mener, c'est faire en sorte d'arrêter de construire des centrales à charbon qui émettent beaucoup plus de CO2 que tous les autres moyens.
Oui, j'allais vous parler du nucléaire, un mix énergétique à terme sans nucléaire. Est-ce que pour vous, c'est possible? Ou bien au contraire, vous dites c'est impensable et il faudra au contraire construire de nouveaux réacteurs?
Je pense que pour la France qui a fait le choix du nucléaire, le choix est bon d'un point de vue du changement climatique. Oui. On est un des leaders. D'ailleurs.
Mais maintenant, on fait le choix en marche arrière un petit peu, hein, vous l'avez remarqué.
Oui, ça renvoie à... Le nucléaire est un objet politique complexe. Le pétrole est peut-être en train de le devenir aussi, comme toutes les énergies. Mais je dirais, moi là-dessus, c'est EDF est notre champion nucléaire. Total, l'énergie n'a pas vocation à être concurrent d'EDF dans le nucléaire. Je tiens à
mais
le
donc,
dire.
Il faut de nouveaux réacteurs.
Ah, je pense qu'il faut aussi, oui, il faut franchement, je pense que renouveler le parc nucléaire est une nécessité dans notre pays. Si, après, c'est une question de dosage entre la taille que ça doit avoir, mais il faut aussi développer les énergies renouvelables dans le pays également. Mais
donc on aura
le nucléaire
besoin,
est une chance de notre pays.
une chance de notre pays. C'est bien de l'entendre, parce qu'on enfin, c'est bien. On ne l'entend pas souvent, ce qui est dit. Jusqu'où va votre pragmatisme, Patrick Pouyanné? Parce qu'on vous a notamment reproché vos activités en Birmanie, Total, étant resté sur place. Il y a de fait, certains disent, une collaboration avec la junte. D'ailleurs, vous avez fini par suspendre une partie des versements de dividendes. Est-ce que vous reconnaissez qu'en y étant, eh bien, il y a une collaboration de fait?
C'est un sujet extrêmement compliqué. La question est de savoir si une entreprise privée doit être juge de la qualité du gouvernement de pays qui nous accueille. Lorsque une entreprise comme Total, et je veux dire, là, c'est un débat qui est le plus compliqué pour moi, un vrai dilemme. Pourquoi? Parce que la seule façon en fait, de mettre fin aux revenus qui vont vers cette junte, c'est d'arrêter de produire. Si j'arrête de produire, j'arrête l'électricité sur la ville de Yangon et l'est de la Thaïlande et je prive des gens d'une énergie essentielle. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est bien beau de me dire « il n'y a qu'à pas payer les impôts ». Mais moi, je ne paye pas les impôts à un gouvernement, je les paye à un État.
Oui.
C'est ça, ça peut être différent.
Mais la plupart des entreprises avec lesquelles vous travaillez sont corrompues et aux mains, ce sont des faux-nés de la junte militaire en Birmanie. Vous avez de fait un rôle géopolitique et politique.
C'est la même société avec laquelle on travaille aujourd'hui que celle qui était là, entreprise d'État, pendant que Mme Aung San Suu Kyi dirigeait le pays. Donc, mais c'est un débat que j'accepte, mais qui est plus compliqué qu'on ne le pense, parce que des pays qui ne sont pas dirigés par des gouvernements dits démocratiques selon nos standards, il y en a beaucoup. Est-ce qu'une entreprise privée mondiale doit se priver d'aller dans ces pays?
Oui, mais monsieur Pouyanné, est-ce que vous reconnaissez?
On rejette violemment, je le répète, oui. Les atteintes aux droits de l'homme sont inacceptables.
Bien sûr, mais est-ce que vous reconnaissez que Total a un rôle politique, géopolitique en étant sur place et représente aussi quelque part la France, la voix de la France? Un tel mastodonte, une telle multinationale ne
oui,
pas se dire nous n'avons pas de rôle
au fait
politique.
Que je peux écrire toutes les lettres que je veux à cette junte, ils ne vont pas beaucoup m'écouter. Donc on a cherché, je peux vous dire que j'ai cherché les moyens, on a arrêté tous les nouveaux projets, on a décidé effectivement de se priver nous-mêmes, de priver la junte des dividendes en se privant nous-mêmes de revenus. Donc on s'est privé de revenus volontairement pour qu'ils ne puissent pas en avoir. Maintenant, l'étape ultime pour moi, c'est d'arrêter. Et simplement, c'est là qu'il y a un débat droit humain, parce que si je fais ça, je sais aussi que j'arrête l'énergie dans ce pays-là. Donc, moi, je suis prêt à débattre. Mais si les pays occidentaux prennent des sanctions qui font qu'on est obligé d'arrêter, ils nous arrêteront. Mais arrêter par nous-mêmes, on me prête beaucoup plus de pouvoir que je le peux. Mais en même temps, quand je peux intervenir, vous voyez, il y a eu récemment une atteinte aux droits de l'homme sur un militant écologiste en Ouganda. Eh ben, j'ai pris ma plume pour écrire au président de l'Ouganda pour lui dire c'est pas acceptable.
Parlons-en, l'Ouganda, voilà. Parce que la stratégie de Total, là encore, est questionnée, voire dénoncée. Monsieur Pouyanné, vous défendez un projet à forte valeur ajoutée. Des ONG, là encore, s'alarment de l'exploitation pétrolière des rives du lac Albert, censé démarrer en 2025, et qui affecterait des parcs naturels et des dizaines de milliers de cultivateurs. Qu'est-ce que vous dites? On a un projet qui est plus fort, à forte valeur ajoutée, il faut y aller?
Ce que je dis, c'est que d'abord, j'en ai tiré une grande leçon. C'est que chez Total, et j'espère que Total Energy sera meilleur, on n'écoute pas assez les autres, et surtout, on n'essaye pas de les convaincre du bien fondé. On fait un très beau projet, qui est un projet incroyable, qui va permettre effectivement de créer une très grande prospérité pour ce pays, qui a des impacts, on ne le nie pas, il est à terre, donc il est...
Mais les impacts sont plus forts que ces effets de prospérité.
Pas, encore une fois, on tombe dans le fait que la minorité dit qu'il est plus fort. Bien évidemment, notre métier, c'est de faire en sorte qu'il ne le soit pas. Je me suis même engagé publiquement pour que ce projet ait un impact positif net sur la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a des impacts négatifs, on est à terre, et on va les compenser par des actions, plus que les compenser. C'est un engagement fort, et nous faisons preuve d'une totale transparence. Nous avons publié l'ensemble des études et l'ensemble des impacts, et nous travaillons avec un centre d'ONG. Ceux qui veulent travailler avec nous, et sur le terrain, on travaille avec Oxfam, on travaille avec la FIDH, ceux qui veulent dialoguer avec nous, nous avançons et obligent mes équipes, en fait, à faire mieux.
Donc vous êtes
plus.
Ouvert voilà au dialogue et au débat.
Une démarche proactive. Mm-hmm. Et dorénavant, je veux que tous les projets de Total Energy soient dans cet esprit-là. Soyons proactifs avec les parties prenantes. N'attendons pas les critiques, parce qu'après, c'est très compliqué de montrer qu'on est de bonne foi.
Bah, pour conclure, Patrick Pouyanné, je le disais, vous êtes assez rare dans les médias. Merci d'avoir accepté ce matin sur Europe 1, après le changement de nom de Total, de venir vous en expliquer votre stratégie. Après la pandémie et dans cette période où vous décrivez des critiques récurrentes, quel est le rôle d'un patron comme vous? Comment vous le voyez? Comment on gère un tel mastodonte aujourd'hui?
Le patron, il est là pour justement écouter ce qui se passe dans la société. Si on transforme Total en Total Energy, c'est parce qu'on ne peut pas avoir raison contre la société. Et ces critiques, quelque part, doivent nous faire avancer. Donc il doit porter à la fois cette vision, et puis il doit faire en sorte après que nous puissions agir réellement dans le concret, et rendre fiers l'ensemble des équipes de Total Energy. Voilà, je pense que c'est pas simple, hein, je veux dire, il y a beaucoup de contraintes, je peux vous le dire, mais je pense qu'il faut surtout être courageux quand on est PDG d'un groupe comme Total. Et le courage, on l'a si on porte une vision. Cette vision, nous la portons vraiment, elle est très sincère et cette transformation, nous arriverons à la faire.
Et vous avez répondu, je vous en remercie, à toutes les questions ce matin sur Europe 1. Patrick Pouyanné, désormais PDG de Total Énergie, faut s'y habituer. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci encore.
Merci à vous.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h29. Vous restez bien sur Europe 1 dans quelques secondes. Le rappel de l'information bien sûr, et puis un quart d'heure spécial tennis ici en direct du cours Philippe Châtrier. Nous sommes à quelques mètres, j'allais dire centimètres, n'exagérons rien, quelques mètres seulement du cours central. A tout de suite.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h32 sur Europe 1, le rappel de l'info avec Marion Calais.
Un peu plus de 25 millions de vaccinés et une campagne qui s'étend. Injection ouverte à partir d'aujourd'hui à tous les adultes avant une décision attendue cette semaine de la Haute Autorité de Santé sur la vaccination des adolescents. Du jamais vu pour l'économie française, le déficit public devrait encore se creuser cette année à 9,4%, annonce ce matin du ministre de l'économie Bruno Le Maire. 300 gendarmes toujours mobilisés en Dordogne autour d'une forêt où s'est retranché un ancien militaire. Il a pris la fuite après avoir tiré sur le nouveau compagnon de son ex-conjointe et sur les forces de l'ordre qui intervenaient. L'homme de 29 ans avait déjà été condamné à 4 reprises pour violence conjugale.
Merci Marion Calais. À 8h32, je me tourne vers Laurent Cabrol à présent pour la météo.
Et pour vous dire que le temps magnifique...
On vous attend. Le temps... On vous attend ici, hein, vous savez. Le c'est temps... important la météo aussi.
Le temps magnifique qui règne en ce moment sur la France et sur Roland-Garros, c'est un temps qui sera quand même assez éphémère puisque à partir de mercredi, les orages vont se multiplier. C'est une semaine quand même orageuse dans l'ensemble. Alors profitons de cette journée de lundi comme celle de demain où le soleil sera omniprésent. Aujourd'hui, nous avons quelques averses orageuses sur le delta du Rhône, mais c'est trois fois rien. Ces averses orageuses vont gagner toutes les régions du sud-est, mais dans l'ensemble, ce sera donc une journée au ciel bleu. Les températures maximales entre 23 et 30 degrés. 23 Lille, Strasbourg, Épinal, 30 dans les Landes et à Cahors, 29 à Bordeaux, 28 à Toulouse, 27 à Lyon, à Rennes, Clermont-Ferrand, Poitiers, Besançon, Blois, Dijon, Paris, Marseille entre 25 et 26. Et puis nous aurons 24 degrés du côté de Brest. Donc profitons, profitons. C'est vraiment la journée la plus belle de la semaine presque.
Eh bien, on en profite. On a suivi votre conseil d'avance. On en profite ce matin ici en direct de Roland-Garros. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Dans un instant, une spéciale tennis avec... alors, je ne sais pas si c'est mon invité, puisque c'est quand même elle qui nous invite aussi, Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour.
Bonjour Mathieu Béliard.
Directrice générale de la Fédération française de tennis. Le journal de Roland-Garros avec Corinne Boulou et Cédric Pioline dans quelques toutes petites secondes. Mais d'abord... simplement, on est extrêmement privilégiés là où nous sommes assis. Et je me dis que bah, vous pouvez aussi en profiter, puisqu'on vous fait gagner deux places pour la finale, rien que ça. Alors en plus, vous aurez le choix, finale homme ou finale dame. Deux places à gagner, c'est extrêmement simple. Vous envoyez tennis, vous savez l'écrire, tennis, au 739-21. A tout de suite.
Tennis au 739-21.
75 centimes plus coût d'un SMS. Deux SMS pour jouer.
Europe 1 en direct de Roland-Garros.
Europe 1 radio officielle des internationaux de France de Roland-Garros, ici le plus beau tournoi de tennis du monde, on peut dire ça comme ça, Amélie Oudéa-Castéra ?
On peut
dire ça comme ça. Alors à midi, le premier match aujourd'hui, elle a 20 ans, elle s'appelle Ida Świątek, c'est la tenante du titre polonaise ici à Roland-Garros. Là en ce moment, derrière ma voix, vous entendez l'entraînement d'Anna Bogdan, 102e mondiale, qualifiée hier, la première qualifiée du premier jour. Au deuxième tour, elle affrontera Naomi Osaka dont on a un petit peu parlé. Alors comme ça, je fais le malin, mais c'est Corinne Boulou qui m'a tout soufflé juste avant. Rebonjour Corinne.
Rebonjour Mathieu.
Et on passe tout de suite au journal de Roland-Garros, ici en direct du cours Philippe Châtrier, de où nous sommes depuis 7h ce matin. Corinne, du soleil, des clameurs, des surprises et pour les plus chanceux, le retour de la course aux selfies et aux autographes avec les joueurs.
J'ai couru après lui, je lui ai dit please, please, puis je dis bah non, s'il te plaît, je suis française, puis il a rigolé. C'est sympa, hein, ça devient de plus en plus dur, hein, les joueurs sont moins accessibles, après il y a des souterrains, etc. Avant, on pouvait les croiser dans les allées bien plus souvent, quoi, mais bon, c'est comme ça.
Mais quand même, ça y est, la vie a repris dans les allées de Roland-Garros et donc on essaye de grappiller des autographes en respectant les gestes barrières, bien évidemment, comme Nathalie présente hier à Roland-Garros. Ils étaient un peu plus de 5000 à prendre possession du stade et à réchauffer encore un peu plus l'ambiance.
Une première journée marquée par l'élimination surprise du numéro 4 mondial Dominic Thiem.
Oui, l'Autrichien de 27 ans, double finaliste 2018-2019, est en mal de sensation depuis sa première et sa seule victoire en Grand Chelem à l'US Open l'an passé, après avoir traversé une période de dépression, hein, comme il l'a révélé au mois d'avril. Dominic Thiem se pensait sur la bonne voie, un quatrième mondial qui avait du mal hier soir à expliquer sa défaite en 5-7 et 4h28 de jeu après avoir mené deux manches à zéro. L'Allemand sixième mondial Alexander Zverev s'est lui aussi fait quelques frayeurs, mais il a réussi à s'imposer après avoir été mené 2-7 à 0.
Le chiffre du jour, 1. Comme un seul qualifié français.
Oui, ils étaient 9 candidats français au deuxième tour. Un seul a franchi hier l'obstacle, Enzo Cuoco, 177e joueur mondial, qui bénéficiait d'une invitation. Il est le seul rescapé tricolore de cette journée inaugurale. Pas terrible, terrible quand même. Hein.
La sanction du jour, la fameuse Naomi Osaka, on en a un petit peu parlé, je le disais, 15 000 $ d'amende.
Oui, c'est le barème pour avoir refusé de se présenter à la conférence de presse à l'issue de sa victoire. Le comité des quatre grands chelems a signifié à la japonaise numéro 2 mondiale qu'elle s'exposait à des sanctions plus graves jusqu'à l'exclusion du tournoi si elle maintenait son refus.
Alors le match du jour, en fait, c'est le match des légendes. Serena Williams, Roger Federer, et nous sommes avec notre consultant Cédric Pioline pour en parler. Deux matchs scrutés à la loupe parce qu'à bientôt 40 ans, leurs sorties en grand chelem sont comptées maintenant.
Oui, il faut en profiter, voilà, tout simplement. Profiter de ces sorties, surtout que eh bien, ça devient de plus en plus difficile, en tout cas du côté de Roger qui a été opéré, qui revient à la compétition. Il n'a joué que 3 matchs officiels cette année, donc c'est peu. On a beaucoup d'incertitudes, évidemment, de savoir s'il va pouvoir avoir la caisse physique pour avancer dans le tournoi, éventuellement aller en deuxième semaine. Et puis du côté de l'Américaine, qui est aussi qui veut égaliser le record de victoire en Grand Chelem. Chaque sortie devient de plus en plus importante, d'autant plus que la terre battue n'a jamais été sa surface, je dirais, de prédilection ou là où elle était le plus à l'aise.
Ah. Je m'incline. En vrai, de l'avoir en direct comme ça ici, on est assez chanceux. Et on est assez chanceux, Amélie Oudéa-Castéra, de les avoir. Ces deux géants, Serena Williams, Roger Federer, de les voir évoluer ici pour les dernières fois sans doute.
Privilège énorme.
Privilège. Alors je précise, pour Serena Williams, la reine du tennis féminin mondial, elle sera à l'affiche de la première session de nuit à huis clos à partir de 21h, couvre-feu oblige. Et on a parlé avec Nicolas Barret tout à l'heure de l'arrivée de ces nouveaux entrants, Amazon notamment, pour la diffusion. Il se passe des choses, ça bouge dans le tennis mondial. Là, on est en train de parler des droits. Ce sont des atouts.
Amazon investit de plus en plus dans le sport, investit de plus en plus dans le tennis. Ils sont assez innovants. Ils ont fait une très, très belle campagne de sensibilisation, d'information du public. Pour nous, c'est une chance avec France Télévisions d'avoir deux partenaires de cette qualité.
Il y a une forme d'émulation. Alors, les enjeux sont phénoménaux. Je regardais le calendrier, en fait. Alors, on a décalé Roland-Garros d'une semaine. Je pourrais taquiner Laurent Cabrol. On aurait dit que vous aviez des infos météo qu'on n'avait pas. Parce qu'entre la pluie qu'on avait juste avant Roland-Garros et le temps qu'on a ce matin, c'est absolument splendide. On est chanceux. Mais vous accompagnez la réouverture du pays, finalement. On a beaucoup parlé de la crise sanitaire. Je n'ai pas voulu uniquement parler de la pandémie ce matin. Mais on est sur le calendrier de réouverture et vous êtes avec les Français.
Il y a un petit peu de ça. Je crois que dans ce qu'on a ressenti hier, dimanche, en ouvrant ce tournoi, c'était en effet du retour un peu à la lumière, je pense, pour presque toute une petite nation, en tout cas le petit écosystème du tennis, ça c'est certain. C'est vrai qu'on avait fait ce choix très en amont de décider de décaler d'une semaine et finalement ça nous a porté chance parce qu'on s'est inscrit dans une phase plus favorable du plan de déconfinement du gouvernement. C'est aussi la résultante de la qualité du travail qu'on a mené avec eux dans l'anticipation, dans la collaboration et ça porte ses fruits. On était très contents d'avoir comme ça un petit peu plus de 5 200 personnes hier. Et puis dans la deuxième partie du tournoi, là, on pourra compter encore sur des niveaux supérieurs de participation.
Et éprouver, expérimenter ce fameux pass sanitaire, c'est ici
que ça va se
passer.
À partir du 9 juin.
Amélie Oudéa-Castéra, je vous présente Ginny Mohamed, c'est le médecin d'Europe 1. Bonjour Ginny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre santé avec vous comme tous les matins. Et évidemment, on profite du fait d'être à Roland-Garros pour rappeler ce matin les bénéfices du sport sur notre santé.
Et oui, avec l'année que nous avons eue, synonyme de stress et de sédentarité, il est temps de se remettre au sport. Je vous rappelle les recommandations. Il est recommandé pour les adultes de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée et intense, c'est-à-dire qu'on ne parle pas simplement de marche, mais d'une activité où vous avez le souffle court au moins 5 jours par semaine, en évitant de rester si possible 2 jours consécutifs sans rien faire. Et chez les enfants et les ados, il faut compter 1 heure d'activité par jour et tous les jours. Alors tout le monde connaît les bénéfices de l'activité physique sur votre santé, mais je vais vous rappeler quelques évidences. Quelle que soit l'activité physique pratiquée, vous allez augmenter santé, votre espérance de vie et votre qualité de vie. Ça va aussi améliorer l'équilibre de nombreuses maladies. Si vous souffrez par exemple d'hypertension, le sport permet de faire baisser votre tension artérielle. Même chose avec le taux de sucre qui va baisser si vous êtes diabétique. Et ainsi de suite, quelle que soit votre pathologie, le sport sera bénéfique. Vous allez aussi renforcer vos os et diminuer le risque d'ostéoporose dont on sait qu'il aboutit à un risque de fracture, et sans parler des effets positifs sur votre sommeil ou votre humeur.
Cela dit, vous avez Cédric Pelline juste à côté de vous, demi-finaliste ici en 98, il a l'air en pleine forme, n'est-ce pas docteur? On fait un petit diagnostic en direct, il oserait dire,
j'ai dit.
Alors justement, est-ce que le tennis serait un bon sport?
Oui, je dis pas ça parce que j'ai envie d'assister à la finale, hein, si jamais les organisateurs m'écoutaient, mais vous allez développer plusieurs compétences. D'abord, votre endurance, les accélérations brutales et les courses répétées vont stimuler quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, Mathieu, le cardio. Regardez aussi la musculature des tennismen français, elle ne me ressemble pas. Le tennis permet de renforcer l'ensemble du corps avec un travail simultané des muscles, des bras, des jambes, des abdos et même ceux du dos. Le tennis nécessite aussi une bonne coordination ainsi qu'une bonne concentration pour viser le long du filet ou de la ligne de cours, sans parler de la patience, car à moins de se prendre un 6-0, 6-0, 6-0, il n'est pas rare de jouer durant plus d'une heure à haute intensité. N'oubliez pas malgré tout que le tennis est un sport exigeant qui nécessite de la préparation et que si ce n'est pas votre truc, sachez que le meilleur sport est celui que vous aimerez et que vous pratiquerez.
Et cela dit, on a Anna Bogdan qui s'entraîne juste à côté de nous. Nous, on a des micros et on est obligé de lever la voix. C'est vous dire la puissance de ces balles qui sont échangées. Amélie Oudéa Castérin, un dernier mot quand même au nom de la Fédération Française de Tennis. On a parlé avec Gaël Monfils de cette génération qui n'a pas eu de chance, qui a eu Djokovic sur sa route, qui a eu Federer et qui a eu évidemment Nadal, 13 fois gagnant ici. Là, on a des talents qui arrivent. On a parlé de Kwako, on a Hugo Gaston qui avait brillé lors de l'élection précédente.
Cazot, Arthur Cazot.
Ouais, on a de l'espoir dans les Français.
Berknech, ouais, il y a quand même quelques belles pousses. Là, hein. Évidemment, une petite déception hier avec ce track record français qui n'était pas formidable. On est dans un moment un petit peu moins faste pour le tennis français, il ne faut pas se voiler la face, mais en même temps beaucoup de travail qui est mené. Moi j'ai bon espoir qu'on puisse repartir à l'offensive. On a prouvé que tant chez les hommes que chez les femmes, on savait gagner des grands chelems quand on était français. Moi je suis convaincue qu'il n'y a pas de fatalité et que le travail va finir par payer.
Eh bien écoutez, on croise les doigts, on touche du bois avec vous, Amélie Oudéa Castéra, directrice générale de la Fédération Française de Tennis. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir pour la quinzaine, puisque je rappelle que Europe 1 est radio officielle de Roland-Garros. Cédric Pelline, on va vous retrouver demain matin dans le journal de Roland-Garros sur Europe 1, bien sûr. Ce soir, dans l'édition spéciale du 18-20 animée par Julien Bugier, en direct du tout nouveau studio qui est à quelques mètres d'ici, au pied du cours Philippe Châtrier, évidemment.
Magnifique.
Nous sommes, toutes les émissions d'Europe 1 vont passer par ici. Nous, je l'avoue, on est privilégiés. On était sur le cours Philippe Châtrier. 8h45, Nicolas Canteloup, la revue de presse à suivre.
Europe 1, en direct de Roland-Garros. Europe Matin.
Le 7-9, Mathieu Béliard.
8h48, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard pour le rappel de l'actu. Mathieu.
Et oui, ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, c'est une émission folle, autant vous le dire, chers auditeurs, que nous vivons en ce moment, puisque nous sommes en direct, vous l'avez compris, depuis Roland-Garros.
Ah oui, on a compris,
dingue.
Oui.
Et oui, je suis comme un gamin, autant vous le dire, j'ai parlé à Nadal, j'ai parlé à mon fils. Bon, ça, je le fais tous les matins, mais...
Drôle.
Tous les deux m'ont répondu depuis leur sanitaire. On s'excuse auprès de nos auditeurs, d'où la qualité du son. Alors, les esprits chagrins, Julie, vont dire, oui, mais l'actu, bien sûr, l'actu, c'est les régionales et la traque en Dordogne. C'est pas faux, mais nous, on s'en tape. Nous c'est tennis, ce matin. On préfère vous parler de l'arrosage des cours. C'était fabuleux, cette interview avec Cédric Pioline, qui nous a parlé du cérémonial de l'arrosage des cours, où il faut savoir qu'il faut compter 5 personnes par tuyau pour arroser un cours de tennis. C'est une matière vivante. C'est passionnant. Hein. Bonjour.
Oh non.
C'est Dominique.
Bah, alors.
C'est Dominique. Ce n'est pas le romantique ce matin qui vous parle. Ce n'est pas l'économiste, c'est l'amoureux du tennis. Je dois vous dire que j'étais stupéfait par le commentaire de Cédric Pioline. 5 personnes par tuyau.
Oh, qu'est-ce que ça va faire?
Ça fait déjà une belle bête. Ceci dit, du moment où toutes les personnes sont majeures et consentantes, allez, je vous laisse, je vais filer le déroulé sur le central.
Merci Dominique Strauss-Kahn.
Vous avez l'image.
Oui, oh non, mais on n'a pas besoin de l'image non plus.
Merci Cédric.
Vous reprenez Mathieu Béliard, s'il vous plaît.
Oui, merci Julie. Chers lecteurs, excusez-nous pour cet aparté. En tout cas, on est très fiers de vous. De vous et très fiers de vous offrir cet exclu. Regardez-nous d'ailleurs sur le site Europe 1. Sur le Ah oui, pardon. Oui, pardon. Il y a, non, bah parce non, pas, y a je vérifie. Oui, il y a pas les images. Il y a pas les images. Ok, autant pour moi. Oui, c'est parce qu'en fait, Amazon a eu le droit des images pour 1 milliard. Mais Europe 1, véritable succès, a eu le droit du son pour 11,50 €. Tout s'explique. Allez, retour. Allez, en tout cas, c'est retour au micro. C'est génial d'être là. Le suspense est à son comble. Tellement d'incertitudes sur ce Roland Garros cette année. Qui va être celui que Nadal va éclater en finale? C'est le vrai suspense. La vraie question. C'est insoutenable. Je suis d'ailleurs à côté, et ça c'est formidable, je suis à côté de Nelson Montfort. Nelson Montfort, c'est un tournoi exceptionnel puisque c'est le retour des spectateurs dans les gradins, cher Nelson.
Oui, tout à fait, mon cher Mathieu, effectivement, c'est le premier tournoi depuis longtemps avec un public. Alors forcément, on pense à notre Benoît Paire national. Qu'il faut-il bien le dire, nous casse les glaouis depuis un an à nous dire « Oui, si je perds, c'est parce qu'il n'y a pas de public. » Bon, bah maintenant, il y a du public, mon cher Benoît, alors montre-nous comment tu gagnes.
Vous pensez qu'il a une chance de gagner, Nelson?
Aucune, ma chère Julie, aucune. Le public est en demi-jauge, mais Benoît sera, rassurez-vous, en full branlé.
Merci Nelson, on vous retrouvera plus tard. Il revient du Rwanda et d'Afrique du Sud. Bonjour, monsieur le président, monsieur Macron est avec nous.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les passionnés de tennis. Ça va? C'est bon? C'est bon? On a fini donc avec le tennis. Est-ce qu'on peut parler politique internationale?
Allez-y, oui.
Voilà, écoutez, ce matin, j'ai envie de citer ce poème africain. Africa, j'ai envie de danser comme toi et de m'offrir à ta loi.
Oui. Bah, vous étiez surtout en Afrique sur fond de nouveaux coups d'État au Mali. Faut le dire.
Oui, c'est vrai. J'étais encore toute la journée d'hier au téléphone avec l'armée française à Bamako. Mm-hmm. Et vous savez ce que c'est, les dimanches à Bamako?
Oui, c'est le jour du mariage.
Non. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de massacre de la population. Oula. Donc je pense que je vais retirer les troupes du Mali.
Et vous êtes donc allé en Afrique du Sud, où vous avez essayé le gant de boxe offert par Mohamed Ali à Nelson Mandela.
Oui, un gant de boxe, faut-il rappeler, pour symboliser son combat contre l'apartheid, car il faut le rappeler, pendant de trop longues années, l'Afrique du Sud a été raciste et n'aimait pas les Noirs. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas tant que cela, vu que chez nous aussi, la France du Sud, parfois, est quelque peu raciste aussi.
Ouais, alors,
l'Afrique du Sud, la France du Sud.
Oui, c'est d'accord. Là, ça sonne pareil. Et ben on reste en France. Une réaction à ce nouveau cadre forcené, c'était hier dans la Dordogne.
Oui, alors vous parliez dans vos journaux précédents d'un nouveau zinzin. Donc vendredi, il y a un cintré qui a poignardé une de nos valeureuses policières. Dimanche, on me parle de ce militaire jaloux en Dordogne. Il y a 10 jours, c'était un Valentin qui faisait un carnage dans les Cévennes. Mais j'ai envie de dire, mais bordel, mais qu'est-ce que vous avez les gens? Non mais on se calme. J'ai autre chose à foutre moi que de traquer des détraqués. Hein, on a rouvert les terrasses, donc on se détend. On va boire un petit spritz, on va bouffer 3 Springles en terrasse et puis on arrête de tirer sur ses concitoyens. La vie, ce n'est pas une fête foraine dans laquelle on tire sur les gens comme sur des canards en plastoc. Non mais merde, non mais il faut le dire à la fin sur votre antenne.
Monsieur le Président, l'individu a plusieurs carabines. Hein, il a tiré sur le véhicule des gendarmes et sur l'hélico de la gendarmerie aussi.
Oui, sur l'hélico aussi. Oui. Alors, je n'ai pas toutes les dates en tête de la chasse en fonction des espèces. Mais de mémoire, l'estafette de gendarmerie, la kangou de la police municipale et l'hélico du GIGN sont des espèces protégées. Il est interdit de tirer dessus quasiment tout au long de l'année.
D'accord.
D'après ce que je sais.
Ok, bah très bien. Merci, Monsieur le Président.
Je vous en prie.
Et puis, ce week-end avait lieu le concert test d'Indochine, un concert auquel a assisté Roselyne Bachelot. Bonjour, Madame la Ministre.
Oui. Bonjour.
Alors, premier bilan de ce concert test?
Oh ben écoutez, chère Julie, qu'est-ce que je me suis fait chier?
Non mais attends, non, mais on attend un commentaire, je sais pas moi, c'est sur le plan médical.
Ah ben écoutez, sur le plan médical, un concert d'Indochine, sur le plan médical, provoque un peu les mêmes symptômes que la Covid, on perd le goût. Du coup, on s'habille avec des frocs en cuir improbables et puis on se fait la coupe de cheveux de Cure. Vous savez, le groupe, on est aussi atteint de somnolence. Moi, je vais vous dire une chose, à la 3e chanson d'Ado attardé, j'ai commencé à piquer du nez. Bref, vous pouvez retourner à vos concerts, voir des concerts pour répondre à votre question, mais pas ceux d'Indochine, c'est beaucoup trop chiant.
Eh ben, dis donc. Merci, Roselyne Bachelot.
Oui.
Allez, on va dire un mot maintenant de la Ligue des Champions qui a été remporté par le club de Chelsea. Chelsea qui est entraîné par Thomas Tuchel, hein. Votre ancien entraîneur, Kylian Mbappé.
Oui, oui, tout à fait. Bonjour, bonjour Madame Julie. Tout
bonjour.
On a viré Thomas Tuchel en décembre parce que les dirigeants pensent qu'il ne nous ferait jamais gagner la Ligue des Champions. Et 7 mois plus tard, c'est vrai qu'il gagne la Ligue des Champions. Je crois que c'est une belle vista des Qataris. Bon, après, il faut avouer que c'est plus simple pour Tuchel, pour Tuchel, oui, à Chelsea, Tuchel. Car ces joueurs les joueurs de Chelsea font un truc que les joueurs du PSG ne font pas. C'est une
ah bon, mais à quoi donc?
Ben, il court.
Ah, il court.
J'ai regardé le match, c'était incroyable. En joueur qui court, moi d'habitude, pareil, je suis le seul à courir. Je pensais que c'était ça le foot. 10 mecs à l'arrêt qui me jettent le ballon. Voilà. Mais non, en fait, tous les joueurs ont le droit de courir. Ce que je viens de découvrir. Alors forcément, c'est plus simple pour Tuchel. Je dirais même que c'est presque trop facile.
Merci Kylian. Allez, on revient à Roland-Garros. Très peu de public, hein, les masques obligatoires, la distance entre les spectateurs. On est en ligne avec Lionel Chamoulot maintenant. Bonjour Lionel, comment ça se passe? Dites-nous.
Oui, bonjour, bonjour à tous. C'est Lionel Chamoulot. Ça commence comme Chamerois, mais en plus mou. Ça
nettement plus mou, oui.
C'est une. Je suis ravi d'être avec vous à l'antenne une fois à l'année. C'est une édition 2021. Nous en parlions avec les responsables du tournoi. Une édition 2021 particulière. Avant, pour accéder au cours central, vous le savez, il fallait juste être blindé. Maintenant, il faut être blindé et pistonné. Trouver une petite place. Il a fait, nous le disions avec Laurent Cabrol, qui me le témoignait, il a fait un soleil de plomb ici hier sur le central. Autant vous dire que les spectateurs équipés de masques qui ont passé 6 heures sur le châtrier en plein cagnard vont avoir l'air malin aujourd'hui avec leur bronzage bicolore vanille fraise.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau bronzage qui va apparaître, le bronzage du masque. On surveillera ça à la fin de la quinzaine. Merci Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse qu'à retrouver bien sûr sur europe1.fr. 8h57, je reconnais la musique, c'est que Philippe Vandel n'est pas loin.
Mais évidemment,
Média va démarrer. Bonjour Philippe.
Évidemment, bonjour Mathieu, je vais faire vite. Il y a 100 ans, les premières émissions de radio étaient diffusées depuis la Tour Eiffel. Notre info média célèbre ce centenaire à travers le témoignage d'une figure historique de la radio, de la télé, Jean-Pierre Elkabbach. On est ravis qu'il soit là en direct avec nous. Ensuite, Bernard Lavillardière, en plus d'enquête exclusive, il lance Néo, un média 100% vidéo. Il l'a lancé en décembre dernier, déjà 500 millions de vues. Et puis Dani, la chanteuse Dani, pour un spectacle et un duo très étonnant avec Joey Star, ça s'appelle Kesta et on l'entendra.
D'un mot, Philippe Vandel, vous serez là vendredi, vous.
Évidemment, on sera à Roland-Garros vendredi. Chauffez-nous bien la place.
Eh oui, Culture Média, j'ai vu votre studio, il est absolument magnifique. La radio officielle de Roland-Garros, c'est Europe 1 et on vous accompagne tout au long de cette quinzaine. J'ai eu le grand plaisir, j'allais dire plaisir, mais le grand privilège de présenter cette matinale en direct du cours Philippe Châtrier, le cours central de Roland-Garros. Vous retrouverez toutes les images sur europe1.fr, bien sûr. Un grand merci à toutes les équipes techniques et à Corinne Boulou, notamment du service des sports, qui ont permis justement l'organisation de cette matinale spéciale. Je vous retrouve demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.